À Digne-les-Bains, le film de Jean Renoir, Le Fleuve, clôturait le festival de cinéma Histoire d'un regard, cinéma indien organisé par les Rencontres cinématographiques. En présence de Charlotte Garçon, un débat était organisé donc à l'issue de la projection du film. Charlotte Garçon est critique de cinéma et rédactrice en chef adjointe au Cahier du cinéma. Elle intervient sur France Culture dans les émissions La Critique et Plan Large. Elle est également auteure de Jean Renoir aux éditions Le Monde, Cahier du cinéma, de Amoureux, Cinémathèque française Actes Sud Junior et Le cinéma hollywoodien, CNDP, au Cahier du cinéma. Retour sur cette soirée de clôture du festival Histoire d'un regard à Digne-les-Bains. Je vous propose d'écouter Charlotte Garçon au micro d'Odile Frison. On l'écoute.
Charlotte Garçon, invitée par les Rencontres cinématographiques pour la projection du film Le Fleuve de Jean Renoir, un film de 1951. Est-ce que vous voulez nous parler de ce film qui est un classique du cinéma français ?
Alors, ce n'est pas un film français, car Jean Renoir était un grand cinéaste français, bien sûr, dans les années 30, mais à la fin de 1940, il a émigré aux États-Unis pour pouvoir continuer à travailler comme cinéaste sans se compromettre avec l'occupant, puisqu'il était un grand artiste qui aurait eu des appels du pied de l'occupant. Donc il est parti aux États-Unis et en 1941 ou 1942, il a acquis la nationalité américaine. Et il a vécu en Californie de manière très heureuse pendant des années, mais de manière moins heureuse à Hollywood. Il a fait 5 films, mais difficilement, parce que les contraintes des studios hollywoodiens étaient différentes de ce qui se passait en France. Et donc Le Fleuve, c'est un film charnière parce qu'il ne va pas réussir à... Il lit ce petit roman autobiographique de Rumer Godden, une Anglaise qui a vécu, qui a grandi à Calcutta. Il le trouve très intéressant, il veut en faire un film. Il le propose aux studios hollywoodiens qui disent « ça coûterait trop cher si on voulait en faire un film commercial parce qu'il faudrait des éléphants, etc. » Lui ne veut pas ça. Et donc il trouve un privé qui lui veut devenir producteur, une sorte de millionnaire self-made man qui le finance. Alors, Le Fleuve, The River, en anglais, c'est le 32e film de Jean Renoir, mais c'est son premier film en couleur. Et en Technicolor, c'est très difficile de tourner en Inde en Technicolor. C'est très lourd. D'abord, la caméra, il y a 3 objectifs. Ça pèse 100 kilos. Donc, c'est vraiment une aventure incroyable qui fait avec, en partie, sa propre équipe et en partie, une équipe locale. Dont, d'ailleurs, sur le tournage, il y aura un étudiant qui est devenu ensuite un grand cinéaste indien qui était Satyajit Ray. C'est un film tourné, donc, véritablement en Inde, mais qui parle d'une petite fille, d'une fille de 12 ans et de son entourage, de sa famille et aussi de la naissance de sa vocation d'écrivaine, en fait. On peut y reconnaître d'ailleurs Jean Renoir lui-même. Hein. Ça arrive que des cinéastes de 55 ans se projettent dans des petites filles et c'est le cas, je crois, dans Le Fleuve. On voit donc la vie de cette famille britannique qui vit à la fois protégée d'une certaine façon du pays qu'ils connaissent assez mal et en même temps, ce que fait Jean Renoir, c'est qu'il ouvre cette maison au monde, à l'Inde, aux Indiens et notamment en rajoutant au roman un personnage de jeune fille métisse, c'est-à-dire que sa mère qui est morte était indienne et son père est anglais.
Qu'est-ce qui différencie, oui, ce film, vous l'avez dit, c'était le premier film en couleur, mais qu'est-ce qui le différencie des autres films de Renoir ?
C'est un film dans lequel Renoir invente la couleur. Alors c'est étonnant parce que lui, qui est le fils du peintre Pierre-Auguste Renoir, l'un des 3 fils, il a grandi littéralement dans la couleur puisqu'il mélangeait les pigments de son père quand il était petit. Donc la couleur, il sait ce que c'est. Sauf que évidemment, c'est pas du tout la même chose quand on peint et quand on fait du cinéma. Et notamment quand on fait du cinéma avec ces machines dont on ne peut pas voir les rushs avant 2 semaines. Il faut que les rushs soient envoyés en Angleterre et reviennent ensuite. Donc on travaille à la fois à l'aveugle et à la fois en faisant que des décors naturels puissent s'accorder à vos désirs chromatiques, à vos souhaits. Donc avec son décorateur Eugène Lourier, il va faire repeindre un gazon, mettre des fausses fleurs achetées au bazar en papier à un arbre, etc. Pas du tout pour faire artificiel, mais parce qu'il a une idée de ce qu'il aura à l'arrivée. Donc d'une certaine façon, quand on est fils de Pierre-Auguste Renoir, on a toujours une sorte d'exigence de la couleur, de la forme. Alors, est-ce que c'est un film tableau ? Pas du tout, parce que c'est un film sur le mouvement de la vie et de la mort, sur le côté cyclique. Ça, ça a été une grande découverte, disons, pour Jean Renoir. Et à sa suite, d'autres cinéastes vont aller en Inde, comme Roberto Rossellini, l'Italien, ou Louis Malle, après eux. Et donc, Renoir a découvert aussi toute la philosophie, disons, hindouiste. Et d'ailleurs, l'actrice, l'une des actrices principales du film, qui joue cette jeune fille métisse, était une jeune femme qui était en fait docteur en théosophie et qui pratiquait la danse ancienne, rituelle, sacrée. Et il y a une séquence extraordinaire de danse dans le film. Donc c'est un film très composite. Il y a bien une histoire, il y a une histoire d'amour. Les trois adolescentes tombent amoureuses d'un visiteur beaucoup plus âgé, enfin... Il y a une romance, il y a tout ça. Et en même temps, il y a l'histoire de ce cinéaste français qu'on voit en train de découvrir un monde, en fait. Il découvre pas seulement un pays, il découvre une vision du monde et ça a véritablement changé sa vie.
Vous êtes invité par les rencontres cinématographiques ce soir. Quel est pour vous l'enjeu ?
Alors, je suis très attachée aux Alpes de Haute-Provence, enfin avec ma modeste connaissance de parisienne que je peux avoir de ce pays. Puisque ça fait une trentaine d'années, oui, un peu moins, depuis 1995, que je suis venue pour la première fois, grâce au Centre Jean Giono, qui organisait pour la première fois une randonnée autour des textes de Giono, des paysages imaginaires et vécus de Jean Giono. Et puis, je suis restée en lien avec notamment son organisateur, Jean-Louis Caribou, et les autres personnes. Et puis, c'est devenu une amitié liée à ce territoire. Donc, on se retrouve dans différents endroits, villages, lieux des Alpes de Haute-Provence. Donc, quand les rencontres m'ont fait signe et m'ont demandé de venir présenter ce film, j'ai dit oui tout de suite parce que ça me ramène dans les Alpes de Haute-Provence. Et je pense véritablement qu'il y a un lien entre l'intensité du paysage qu'on peut voir dans un film comme Le Fleuve de Jean Renoir et la force des éléments qu'il y a dans les paysages de Haute-Provence.
Est-ce que vous avez envie de parler des livres que vous avez écrits pour les Cahiers du cinéma ?
Alors j'ai écrit quelques petits livres sur le cinéma, l'un qui est consacré à la rencontre amoureuse dans les films, qui est plutôt destiné à des adolescents ou des jeunes adultes, mais je pense que quand on est adolescent, on n'a pas envie que le livre soit étiqueté adolescence. J'ai écrit aussi donc un livre sur Jean Renoir. Il n'est pas très long, mais il essaye de traverser véritablement tout le parcours de Jean Renoir, que ce soit dès sa période muette, en fait, parce qu'il a commencé quand le cinéma était encore muet, puis ensuite ses chefs-d'œuvre que sont La Grande Illusion, La Règle du Jeu à la fin des années 30, et puis ensuite d'autres chefs-d'œuvre comme Le Fleuve et comme French Cancan. Donc ce que j'aimerais, c'est que ces films soient encore plus montrés en salle et qu'ils redeviennent vraiment le cinéaste important qu'il a toujours été. Mais bon, j'ai écrit donc quelques livres, mais mon activité principale, c'est quand même la critique, à la fois sur France Culture, la radio et en même temps dans les Cahiers du cinéma. Et donc, ce qui me ferait plaisir, c'est que les gens, d'abord, bien sûr, continuent à aller en salle, mais aussi aient une pratique de lecture de la critique. Parce que je pense que d'une certaine façon, la critique, même quand elle est négative, et on ne se prive pas d'écrire des critiques négatives au cahier, elle rend possible, disons même, l'existence des œuvres, en fait. Parce que les gens, même sans le savoir, et même s'ils ont peur de ce qu'on va écrire sur eux, ils ont le souhait qu'il y ait un spectateur attentif. Et c'est vrai que pour nous, passer du temps à aller voir un film, mais à prendre des notes, à réfléchir et à faire un texte, c'est une façon de prendre très au sérieux les films. Ils passent tellement vite sur les écrans que je pense que la presse écrite a encore quelques jours devant elle.
Vous pensez que c'est important pour le public de voir d'abord la critique d'un film avant de se décider à y aller ?
Alors je dirais que le mieux, c'est d'aller d'abord voir le film et d'avoir une publication critique qu'on a identifiée, qu'on aime bien, avec ses têtes, on a ses têtes, comme quand on écoute des émissions de débats critiques, et puis de lire les textes après, plutôt. Et en tant que spectateur, de prendre le risque d'aller voir un film ou non, un peu à sa tête, quoi, un peu à son affiche, à son casting, à ce qu'on a envie, et puis ensuite seulement de se plonger dans le texte, parce qu'il y a un cheminement à l'intérieur du texte, et un texte, c'est un peu le contraire d'une note qu'on mettrait. Les gens croient qu'on est là comme des profs à évaluer les films, et en fait, pour nous, c'est le contraire. Écrire un texte, c'est essayer de construire un chemin pour mieux comprendre, tout simplement, pour avoir une idée plus nette de l'expérience qu'on a eue pendant 2 heures.
Comment on devient critique de cinéma ?
Alors, comment on devient critique de cinéma ?
Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour devenir critique ?
Si je savais comment on devient critique de cinéma, peut-être que je ne serais pas devenue. Je pense qu'il y a une cinéphilie, enfin un amour des films qui doit être soit dans l'enfance, comme c'est mon cas, soit dans l'adolescence. Mais enfin, il faut aimer voir des films, et beaucoup, des bons, des mauvais, de toutes époques. Et je pense que c'est important d'avoir l'impression que des films, entre guillemets, anciens, parce qu'on ne dit pas des livres anciens, quand on lit un livre du 19e siècle, on ne dit pas c'est un vieux livre. Bon, donc, il n'y a pas de vieux films. Déjà, je pense que quand on a ce sentiment-là, on est quand même bon pour la critique. Et la deuxième chose, quand même, c'est le travail de l'écriture. Alors, bien sûr, on peut tout à fait être critique à l'oral, mais je pense qu'il y a un travail, un amour un peu littéraire, disons, du travail du texte, qui doit essayer de se hausser au niveau d'exigence du film. C'est-à-dire que c'est trop facile de juste donner son opinion comme ça, vite fait. Donc il faut aussi nous-mêmes avoir travaillé. On a tout à fait conscience qu'un film, c'est du temps, de l'argent, c'est un investissement très fort de son créateur en général. Et donc, on ne traite pas ça par-dessus la jambe. Donc ça veut dire qu'il faut un travail d'écriture conséquent.
Merci.
Merci à vous.